Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et on fait ça en s'amusant, on passe de bons moments ensemble. Je suis Patrick Béja et je suis accompagné de mon plus vieil ami, et quand je dis mon plus vieil ami, c'est pas parce que je le connais depuis longtemps, même si c'est le cas aussi, c'est parce qu'il est effectivement un petit peu vieux, Daniel Charby, comment ça va ?
Bonjour, oui, ça va, et en fait, vieux et aigri surtout, parce que quand tu dis qu'on va s'amuser, moi je suis pas venu sur ce podcast pour m'amuser, mais plutôt pour contredire et contrarier chacun de tes commentaires.
Je vois que les bonnes habitudes ne se perdent pas, c'est très bien. J'en parle régulièrement, mais vous pouvez imaginer ce que donnaient nos parties de Street Fighter il y a quelques années, mais en fait c'est même deux décennies, où on était dans cette ambiance du début à la fin. Donc, Dany, on le connaît bien. Et on a également avec nous un contributeur régulier de l'émission, mais qui pour le coup va être 100% dans son élément, non pas parce qu'il va être contrarié par Dany à chacune de ses affirmations, mais parce qu'on va parler notamment de Final Fantasy XIV. Salut Kassim, comment ça va ? Est-ce que tu es en forme ?
Je suis très en forme après ces événements incroyables dans le jeu, donc j'ai très hâte d'en parler.
Oui, il y a eu le... Comment il s'appelle ? Final Fantasy Fan Festival, c'est ça ?
C'est ça, c'est pour pas reprendre le... Ça aurait pu s'appeler le Final Fantasy Con, mais c'était compliqué comme nom, donc...
Final Fantasy Con, ça un fan oui. Fan Festival, tu sais, moi je suis un petit peu déçu, parce que c'est Final Fantasy Fan Festival, c'est une allitération avec 4 F, mais c'est Final Fantasy 14. Je pense qu'ils auraient essayé, ils auraient dû en faire 14 des allitérations, tu vois. Ça aurait été bien plus cohérent avec le titre du jeu.
Tu sais que les Japonais en sont capables pour nommer des jeux, c'est pas les derniers.
C'est vrai, exactement.
Je pense que j'ai trouvé le nom idéal en fait, c'est le Fin oui. FanCon.
Fin FanCon, ah voilà. Pas mal oui.
Je pense qu'on devrait l'appeler comme ça.
Fin FanCon, c'est très bien. Oula, pardon. Ça, j'ai été vacciné contre le Covid. Hein. C'est pas le Covid, c'est juste que je, comme ma fille, j'ai une digestion hasardeuse, je pense, en ce moment.
Tu captes bien la 5G en ce moment ?
Oui, c'est en Finlande, elle marche d'autant mieux qu'on a eu des vaccins spéciaux livrés à la main par Bill Gates. Donc c'est encore plus efficace. Avant de se lancer dans l'émission, comme je le disais, on va parler du Final Fantasy Fan Festival, on va aussi parler du Summer Game Fest, de AT&T, enfin plutôt de Warner Media et de WB Games et de ce qui se passe pour eux. On a plein d'autres infos comme par exemple l'arrivée de John Rambo et John McClane dans nos jeux préférés, notre jeu préféré. Oui, Die Hard arrive avec Rambo et plein d'autres petites choses. Mais avant ça, bien sûr, je voudrais vous dire deux mots sur... les auditeurs qui soutiennent le rendez-vous jeu et surtout les remercier. Remercier Gabriel Young, intéressant comme nom, Little Robot, Thomas, Lord Kiter, Yannick Lapierre, Olivier 974, attention, aucun des autres, uniquement le 974, et Johan Journet, qui est le seul Johan Journet dont le nom ne se lit pas Johan Journe, il ne faut pas se tromper. Et merci à vous tous de soutenir l'émission, et en particulier Johan, qui est le producteur de cet épisode. C'est grâce à toi qu'on a pu inviter Kassim, qui va se faire un grand plaisir de nous parler de Final Fantasy XIV pendant... Allez, combien de temps tu peux parler sans interruption de Final Fantasy XIV, Kassim ? On dit tu sais. Une heure et demie, deux heures ?
C'est à l'image de la longueur du jeu qui entraîne quelques centaines d'heures maintenant, après quelques extensions du jeu.
C'est marrant parce qu'on parle régulièrement de Final Fantasy XIV et à chaque fois, on dit un petit peu genre... c'est l'autre MMO qui a réussi à continuer et qui a ses hordes de fans et qui est hyper populaire, en parallèle de World of Warcraft, que Daniel et moi connaissons assez bien. D'ailleurs, Dany, tu m'annonçais que tu allais replonger dans Burning Crusade Classic quand il sort dans deux semaines, et que tu vas y passer
tes nuits. Tout de suite, je passe la nuit blanche, exactement. Et j'ai remonté un personnage du niveau 1 direct.
Donc toi aussi, tu vas y passer 174 heures. Très bien, très bien.
jour, là, c'est le plus.
Mais oui, pour Final Fantasy, il y a eu donc le Fan Festival il y a quelques jours de ça. Et il y a eu plein de choses qui se sont passées pendant ce Fan Festival. Et donc, je me suis dit, peut-être en partie parce qu'il n'y a pas énormément d'autres news, mais non, bien sûr, parce que c'est très important. On va pouvoir en parler et que tu nous expliques, que tu nous fasses enfin rentrer dans le cœur de cette communauté qui est hyper active, hyper, qui a un amour profond pour ce jeu. Et puis, il y a eu des moments un petit peu émouvants dans ce Fan Festival. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu de quoi il s'est agi, Kassim ?
Oui, c'est sûr que le jeu a gagné en plus en popularité au fil des ans. Donc maintenant, c'est sûr qu'il a quand même une grosse communauté. Alors, Square Enix ne révèle pas le nombre d'abonnés, mais on sent que c'est probablement le plus gros MMORPG au monde derrière World of Warcraft. Peut-être arrive-t-il à s'échanger des fois des coups, mais voilà. Enfin bref, c'est les deux gros MMORPG. Surtout que c'est un des seuls à avoir pu maintenir le même modèle économique, c'est-à-dire des extensions qui sortent tous les quelques années et puis un abonnement mensuel à payer. Donc, ça montre aussi que le jeu est quand même en plutôt bonne santé en termes de joueurs. C'est que, en général, quand un éditeur arrive à maintenir comme ça son modèle économique sur un MMORPG, c'est que tout va bien.
Il y a beaucoup qui sont passés free-to-play, hein, même si, comme le signale la plupart des mêmes Final Fantasy XIV de TikTok et d'ailleurs, et comme tu nous le signalais avant qu'on commence à enregistrer, il y a une composante free-to-play à Final Fantasy XIV, comme c'est le cas d'ailleurs pour World of Warcraft. Mais bon, peut-être que je prends trop les devants. Vas-y, continue à nous détailler tout ça.
Non, mais oui, tu as raison. Oui, il y a une version gratuite du jeu, mais qui est plus une version d'essai, même si elle a été très largement agrandie, et elle est assez généreuse. Et du coup, en trompe-l'œil, on peut avoir l'impression qu'il y a du free-to-play. Le jeu ne s'est pas transformé en free-to-play, donc du coup, il n'y a pas toutes les mécaniques qui vont forcément avec en termes d'incitation à aller acheter des choses qui seraient optionnelles. C'est compliqué. Je ne sais pas par où commencer exactement, mais
Poser la question à propos de ce qui s'est passé avec Masayoshi Soken. Parce que c'était un moment émouvant dans le Fan Festival. Et on a tous entendu parler de Endwalker. On a eu d'autres détails sur l'extension, donc, qui arrive en novembre. Mais ça, c'était un truc qui était assez unique. Tu peux nous dire ce qui s'est passé ? Parce qu'il y a plein de gens qui en ont entendu parler sur les réseaux sociaux, je suis sûr, mais qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit.
Ouais, je pense qu'il faut effectivement le prendre par là. Et juste avant de parler du coup de Masayoshi Soken, justement expliquer que un des trucs importants avec Final Fantasy XIV, c'est vraiment qu'il y a une communauté forte dans le jeu et en même temps une communauté forte autour du jeu, puisque on l'a répété millions de fois depuis qu'il est sorti le jeu. Il a eu un départ difficile et après il s'est réinventé avec A Realm Reborn et il a changé notamment de réalisateur et de producteur c'est Naoki Yoshida maintenant qui occupe les deux postes en même temps depuis la réinvention du jeu en fait et qui justement chapeaute complètement le projet et c'est devenu un réalisateur et un producteur très important en interne à Square Enix parce qu'il a réussi à remonter le jeu, évidemment pas tout seul mais il a réussi à donner une ligne directrice et à vraiment emmener le bateau dans la bonne direction quoi. Et c'est justement c'est un écho direct à cette chose-là, et c'est aussi pour ça que la communauté, je pense, se sent très impliquée auprès des développeurs. Donc la déclaration de Masayoshi Soken, qui est le compositeur de Final Fantasy XIV depuis pas mal d'années. Au début, il y avait Nobuo Uematsu qui faisait encore quelques thèmes, mais c'est très rapidement Masayoshi Soken qui est devenu le compositeur principal, et qui aujourd'hui est l'une des stars de la communauté, et puis un des meilleurs compositeurs, je pense, les plus renommés, en tout cas au Japon. Il est vraiment adoré des fans. À chaque fan festival, il donne des concerts autour des musiques du jeu et il a vraiment une personnalité assez exaltante. Enfin, la veille de la clôture du Fan Festival, il réinterprétait une musique du jeu qui est une musique magnifique en la détruisant un petit peu, en chantant très faux et voilà. Ça donnait un moment très, très amusant avec la communauté. Il joue un peu avec la communauté comme ça. Et puis, on arrive au discours de clôture du Fan Festival. Un Fan Festival organisé par des développeurs japonais où, du coup, donc, tout le monde vient dire à la fin son poste et en disant « Oui, bon, merci d'avoir suivi ça. On est cœur avec les fans, blablabla. » Le truc un peu corporate japonais où tout le monde voilà,
baisse ouais, un peu le dos. On s'incline, on fait les courbettes voilà. Et puis on dit merci.
Exactement. Et là, il y a Masayoshi Ken qui demande à parler pendant quelques instants. Et il y a Naoki Yoshida qui se retourne à ce moment-là, donc l'orateur et producteur du jeu, qui se retourne pour ne pas se montrer à la caméra. Et tu sens que y a une tension qui s'installe. Et donc, il commence à expliquer que il a été diagnostiqué du cancer en mars 2020, donc au début de la pandémie du coronavirus, et que du coup il a été hospitalisé pendant la grande majorité de 2020, et que comme le télétravail s'est installé aussi pendant cette période-là, d'une part il a caché sa maladie et son hospitalisation aux équipes de développement, il n'y a que Naoki Yoshida qui était au courant, et d'autre part, personne n'a pu aller le voir à l'hôpital en raison et notamment Naoki Yoshida n'a pas pu aller le voir en raison des problèmes sanitaires, des mesures sanitaires. Et puis, il a demandé à continuer à travailler, on pourrait revenir dessus, mais il a demandé à continuer à travailler sur Final Fantasy XIV pendant son hospitalisation. Il a notamment composé une des musiques qui est sortie l'année dernière et qui est une très belle musique dont j'ai To the Edge, voilà, qui est une musique en plus qui parle du courage, l'abandon, etc. Enfin, qui a des thèmes assez forts et qui du coup résonne d'autant plus maintenant qu'on connaît le sens derrière la composition de la musique. Et puis, du coup, donc voilà, il annonce quand même que ce cancer est pour le moment en rémission et qu'il s'est senti encouragé par la communauté dans le sens où il avait envie de continuer à composer. Ça lui a donné un peu un objectif pour lutter contre le cancer et en même temps d'être poussé un peu par la popularité, enfin par l'amour que les joueurs ont pour ses compositions. Ça l'a aussi motivé et aidé. Et le discours qui est encore plus, je trouve, émotionnel, c'est celui derrière de Naoki Yoshida qui s'effondre en larmes, ce qui, du coup, dans le jeu vidéo déjà, enfin d'une manière générale, dans le monde, dans une industrie, est quand même assez rare de s'effondrer en larmes en direct comme ça, littéralement. Encore plus pour un réalisateur, un producteur japonais, je pense. Et il explique à quel point c'était difficile pour lui d'avoir caché tout ça aux équipes de développement. Il y a la scénariste sur scène aussi qui s'effondre en larmes parce qu'elle l'apprend en direct et elle a quand même été obligée de travailler. Elle a travaillé avec donc le compositeur pendant 2020 sans le savoir, en lui demandant de faire des ajustements à la seconde près sur ses musiques pour que ça corresponde parfaitement à la scène cinématique, etc. Et elle se sent assez coupable de tout ça. Ouais. Elle se sent mal. Et il y a Soken qui essaie de la rassurer sur scène en disant que tout va bien. Et il y a Yoshida qui fait son discours. En disant qu'il a été obligé de cacher tout ça, que c'était énormément difficile, qu'il est content que son meilleur ami soit de retour. Il s'effondre en larmes. C'est assez difficile à regarder comme scène aussi. Et un dernier mot pour dire, justement, et ça fait la boucle avec ce que je racontais au début, où en fait, Soken raconte que... Yoshida raconte que quand il a fait son discours, quand il est devenu réalisateur et producteur de Final Fantasy XIV et qu'il s'est présenté en fait aux équipes de développement en disant qu'il allait reprendre le projet, c'est Soken qui a été le premier à lui dire « Allez, on va y aller, on va le faire » et à lever un peu la main au ciel et en disant « Allez, les équipes, on y va, allons-y, faisons-lui confiance ». Et du coup, on sent une proximité vraiment entre les deux hommes.
Ouais.
Et voilà, c'est un moment qui était assez émouvant.
C'est un petit peu compliqué d'évoquer ça au début, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, comme je disais, et puis c'était l'un des événements, et c'est extrêmement rare comme type d'interaction. Mais surtout, ce qui m'a frappé et mon impression, c'est que il n'y avait pas du tout de voyeurisme ou de sentiments un petit peu malsains.
C'était authentique.
C'était authentique et c'était... La communauté avait l'air vraiment sincèrement touchée par le truc. Et ça se reflète, je crois, dans toute la communauté, une vraie sincérité, un vrai... comment dire, un aspect très positif qui entoure tout ça. Et bon, peut-être que c'est le lot des jeux qui sont un petit peu en challenger, donc on est obligé de se serrer les coudes. Mais ça avait l'air très, très sain et très positif, tout ça, malgré, évidemment, l'aspect extrêmement émouvant et difficile du moment.
Si je devais faire un parallèle un peu, bon, c'est pas en attendant autant dans l'émotionnel ou quoi, hein, mais si je devais faire un parallèle avec Blizzard, tu vois, j'irais plutôt du côté d'Overwatch. Et le fait, en fait, que depuis le début de Realm Reborn, l'équipe de développement est très proche de la communauté et fait très régulièrement des lives pour expliquer leur raisonnement, la façon dont ils développent le jeu. Et en fait, du coup, il y a ce côté un peu proximité, comme je trouve un peu la communauté Overwatch pouvait l'avoir avec Jeff Kaplan. Le côté, c'est une personne, c'est une figure, c'est des figures que tu vois régulièrement
et qui viennent utiliser le passé. Oui.
Désolé. Mais oui. Mais du coup, voilà, ce côté un peu proximité, après, voilà, qui est parfois ressenti entre des communautés et les développeurs. Là, je trouve qu'elle est particulièrement forte. C'était juste pour faire un parallèle, pour donner un peu une image, mais oui, là, je trouve, enfin, elle est pas volée, je trouve, la proximité entre, et elle est pas complètement artificielle, elle est pas artificielle ou marketing, je trouve. La proximité qu'il peut y avoir entre la communauté et les développeurs pour ce jeu en particulier. Ça reste un événement. Enfin, c'est pas non plus. Il y a eu un fan festival à côté. Je vois la chatroom qui se demande s'il y a eu des news quand même dans l'événement.
Oui, bah justement, donc c'était pour moi vraiment le truc le plus important. Mais à côté ça, il y a effectivement eu des news. On a notamment la date de sortie de Endwalker, la prochaine extension, qui est le 23 novembre. Et puis surtout, dans quelques jours à peine, l'arrivée du jeu en version PS5, donc optimisé PS5. C'est peut-être le moment pour beaucoup d'auditeurs de se dire on va tester un petit peu le jeu, parce qu'il arrive sur PS5 et il a, avez-vous entendu le fait que il a une version free-to-play, un élément free-to-play qui dure 60 niveaux. Est-ce que tu pourrais nous dire, j'ai l'impression qu'on le répète toutes les quelques semaines quand on parle de Final Fantasy, mais est-ce que tu pourrais nous dire les forces et les qualités de Final Fantasy, peut-être ce que va amener l'extension, mais peut-être encore plus ce que pourraient y trouver les auditeurs, pour que si certains se posent la question, est-ce que c'est pour moi, est-ce que je vais l'installer et l'essayer, ils puissent avoir une idée de ce qu'ils auraient dans ce jeu.
Ouais, bah je peux même faire les deux en même temps, je pense, effectivement, parce que, pour moi, il y a vraiment trois grandes forces, je dirais, de Final Fantasy XIV qui peuvent donner envie, qui sont vraiment, qui méritent, en fait, qui sont les raisons pour lesquelles le jeu mérite d'être joué, quoi. Le premier, c'est le scénario et le lore. En ce moment, en plus, depuis le Fan Festival, je suis en train de relire une encyclopédie autour du lore du jeu pour me remettre à niveau, justement, pour la sortie de l'extension. C'est justement Endwalker, là, l'extension qui va sortir, termine un arc scénaristique qui a commencé en 2013, quoi, avec Realm Reborn. Donc, et pour te dire, enfin, il y a des. Donc, moi, là, l'encyclopédie que je suis en train de lire elle date de 2016, et il y a des personnages, enfin, des monstres ou des personnages qu'on voit dans la scène cinématique là, du trailer qui sont évoqués dans ce livre de 2016, où ils avaient déjà préparé certaines pistes qu'ils sont en train d'exploiter maintenant. Donc on a vraiment ce côté un peu, moi c'est le parallèle que je fais souvent, c'est avec Avengers Endgame de Marvel. C'est le fait que on a des fils scénaristiques, tout un arc qui s'est créé depuis Realm Reborn, qui s'est étoffé au fil des extensions et qui est en train de se conclure. Et donc on a vraiment un scénario très construit, des personnages très travaillés et un univers vraiment très très cohérent. Auquel on découvre des choses au fur et à mesure, et on est même avec les personnages du jeu souvent à l'avant-fond de la découverte technologique et de la découverte scientifique dans le jeu, et on fait tu vois les personnages des fois faire des théories scientifiques sur certains éléments de lore et prouver leurs théories, etc. Et tout ça est parfaitement cohérent et bien construit, et tu comprends leur raisonnement, et il y a vraiment quelque chose de très enthousiasmant quand on est arrivé là, quoi. Et donc j'ai hâte de voir ce qu'ils nous réservent pour le prochain patch. Et à titre d'exemple, il y avait du coup justement la scénariste en chef qui était invitée à ce fan festival, qui est celle qui a fait le scénario de Shadowbringers, qui a été maintes fois adulé, enfin acclamé par la critique. et qui va s'occuper aussi de Anne Walker. Et en fin de Q&A, on lui demandait quelles étaient les choses un peu que les joueurs devaient faire avant, pour se préparer à Anne Walker. Et en gros, elle expliquait que bon, tu peux bien sûr profiter de Anne Walker comme ça, mais si tu as fait tous les raids, toutes les quêtes de job, tous les raids, tous les machins, tu auras des éléments supplémentaires. Et je pense que c'est pas volé en plus... connaissant certains éléments de Shadowbringers qui étaient déjà inspirés de quêtes secondaires. Bah voilà, donc il y a vraiment ce côté un peu culmination, enfin, de plein d'éléments.
Pardon, vas-y, fini.
Non, mais c'est juste, c'est un arc énorme et pour moi, c'est vraiment la raison principale pour laquelle je joue à FF14, au-delà du gameplay, du graphisme, de la musique et tout, c'est vraiment le scénario et je le vis vraiment comme une série télé dont j'ai envie de connaître la suite, quoi.
Alors, j'ai deux questions, du coup, et puis on va conclure. La première, c'est est-ce qu'on peut profiter de cet aspect dès les premiers niveaux de la version free-to-play, ou est-ce que ça prend genre 60 000 heures à se mettre en place et à devenir intéressant? Et la deuxième, c'est le gameplay. Est-ce que c'est un gameplay de MMO classique, c'est-à-dire on cible et puis on appuie sur les boutons et on a notre rotation et c'est un gameplay attendu de MMO, ou est-ce que c'est différent? Donc, est-ce qu'on peut en profiter tout de suite et comment est le gameplay?
Ouais, alors non, on ne peut pas en profiter tout de suite, clairement. Enfin, pour moi, après, tout dépend du public, évidemment, mais pour moi, le début du scénario de Realm Reborn, donc de 2.0, qui est le tout début de l'épopée, c'est trop manichéen et classique et long. Et oh là là, les méchants sont très méchants et sont dans des capes méchants de méchants qui apparaissent et disent des discours de méchants, et les gentils, ils sont très très gentils. Même s'il y a déjà dès le début des petits éléments qui peuvent casser ça, mais globalement c'est très manichéen. Donc je dirais que non, malheureusement, je pense que, et c'est
donc pour moi, c'est un des défauts du jeu, il faut se taper, bien.
Exactement, il faut avoir au moins fini le contenu de 2.0, c'est-à-dire Realm Reborn, et arriver jusqu'à la première extension qui est toujours inclue dans l'option gratuite, mais il faut arriver à cette première extension.
Elle s'appelle comment ?
Evansward. C'est au niveau 50, en gros, auquel tu arrives à cet événement-là, à ces éléments-là. Il faut quand même se taper le début ou payer pour passer directement au niveau machin.
Et si on fait l'épopée, ça...
Mais du coup...
Est-ce que tu rates toute la base ou est-ce que tu peux quand même en profiter ?
Tu peux quand même en profiter, je pense que tu peux quand même en rattraper. Après, moi, je suis du genre à vouloir, même les pires séries qui commencent à être bien à la saison 4, je suis tendance à vouloir les commencer à la saison 1, épisode 1, tu vois.
Ce que tu veux dire, c'est
Ça me fait mal de dire ça. Mais...
Ce que tu veux dire, c'est que tu n'as pas d'enfant et que tu as encore beaucoup de temps libre. Je comprends.
C'est ça, et que voilà, ça fait mal, mais c'est comme ça. Et pour le gameplay, du coup, c'est du gameplay de MMO classique, healer, tank, DPS, avec les compétences sur lesquelles tu appuies. Je dirais quand même que y a deux éléments de gameplay qui sont importants pour moi. D'abord, c'est jouable complètement à la manette. C'est bête à dire, mais je trouve que c'est un vrai argument. Enfin, moi, je joue complètement à la manette, même dans les raids de haut niveau et tout ça. Et je trouve ça beaucoup plus confortable. Ça améliore, ça rend pas le gameplay magique ou quoi, mais pour moi, ça rend la chose plus accessible et agréable. Et je pense que c'est important de le mentionner. Et la deuxième, c'est la possibilité de changer de job qui reste pour moi. Un des gros points forts de Final Fantasy XIV, le fait que t'aies pas besoin de recréer un nouveau personnage et repartir de l'épopée du début si tu veux passer de tank à DPS, et notamment profiter du nouveau DPS qui a été annoncé dans cette extension-là, dans ce Fun Festival, le Reaper qui est très très cool et très très dark. Ouais. Et d'ailleurs, tiens, encore un parallèle avec Overwatch, il y avait donc Masayoshi Soken, le compositeur, qui portait un t-shirt de Hammond... Donc le hamster d'Overwatch et qui disait « Oh mince, je me suis trompé de t-shirt, c'était pas le bon, je voulais un t-shirt de Reaper. » Enfin, on s'est amusé un peu du parallèle entre la nouvelle classe et Overwatch, évidemment. En plus, c'est deux personnages un peu edgy. Oui,
Quand tu t'appelles Reaper, généralement, t'es un émo. Oui, bien sûr.
Exactement.
D'accord. Quand tu dis « on change de job », pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas tellement dans les RPG japonais, ça, en fait, c'est changer de classe. Ce n'est pas juste qu'on peut changer de spec. Mais on peut vraiment changer de classe. J'imagine qu'il y a un petit coût en ressources ou un truc comme ça, mais c'est...
Non, le coût, c'est juste qu'il faut que tu refasses le leveling du niveau 1 sans rien changer d'autre, juste tu refais le leveling, mais sinon c'est vraiment un bouton et tu passes d'une classe à l'autre.
Ah, il faut refaire tout le leveling ?
Oui, enfin, si t'as envie de... si t'es paladin niveau 60 et que tu te dis, tiens, je vais devenir mage noir, tu repars... quand tu deviens mage noir, tu passes niveau 1, c'est... Faut vraiment imaginer ça comme... un arbre de compétences que tu montes, quoi, en gros.
D'accord.
Et après, quand tu redeviens paladin, tu redeviens 60, tu vois.
C'est, ah, d'accord. C'est... Mais attends, mais du coup, si tu as besoin de remonter toute la classe, c'est exactement la même chose que si tu crées un nouveau perso. Qu'est-ce que ça change ? Est-ce non, que tu peux monter plus vite ?
Alors, tu peux monter beaucoup plus vite. Tu as deux fois plus d'XP pour évidemment t'aider à monter. Et puis surtout, tu ne te retapes pas la quête principale. Tu as toutes tes choses qui sont débloquées. Toutes les choses que tu as débloquées avec ton compte, avec ton personnage. Reste débloqué, toutes tes montures, t'as pas besoin de tout retaper. Après, je sais pas exactement comment fonctionne WoW, mais t'as pas tout besoin de reprendre à zéro, quoi.
Bah, disons que dans World of Warcraft, il y a des éléments pour accélérer le leveling des autres classes. Si t'as déjà une classe au niveau élevé, tu peux acheter des objets qui sont débloqués sur toutes les classes et qui vont t'ajouter jusqu'à 70% d'XP.
Oui, bien sûr, mais j'avais pas fait le tour des objets et machin, mais oui, t'as des options comme ça pour augmenter la vitesse de leveling. Mais l'idée, c'est surtout que tu t'es pas trop tapé de débloquer le contenu, en fait. T'as pas à redébloquer le contenu avec
ça prend combien de temps de leveler un personnage du niveau 1 au niveau maximum ? À la louche ?
Aucune idée. Bon, ça se fait assez rapidement, je pense une dizaine d'heures maximum, parce que bon, maintenant, on est quand même level 80. Hein ?
Quand c'est un autre job. La première fois, ça prend des dizaines d'heures, on est d'accord.
Je pense que tu peux aller au-delà de la centaine d'heures parce que tu as la quête principale. Vraiment, il faut imaginer une centaine d'heures de cinématiques et de trucs à regarder, de dialogues et tout ça, quoi.
D'accord.
Bah, c'est le RPG, c'est Persona, quoi.
Et du coup, est-ce qu'il y a quelque part une vidéo qui soit, comme c'est vraiment l'histoire, est-ce qu'il y a une vidéo qui réunit genre toutes les cinématiques de manière cohérente à pouvoir suivre un truc qui va faire quelques heures à regarder comme une série plutôt que de jouer au jeu ?
J'en rêverais, je n'ai toujours pas trouvé un truc comme ça. Je pense qu'il y a des chaînes YouTube qui font ça bien. Je crois que j'avais déjà trouvé une fois une vidéo YouTube, mais je trouve que c'est... Tu mets le doigt, voilà, si je devais donner un défaut, et enfin surtout si Square Enix devait se faire un truc, je trouve qu'ils auraient dû depuis longtemps faire un film comme ils savent en faire en plus pour des trucs genre FF15 et tout ça alors qu'il n'y avait rien à sauver. Ils pourraient faire un film de 1 heure en image de synthèse ou je sais pas pour un peu raconter le début la partie chiante et que les gens globalement n'aiment pas faire pour donner plus envie, enfin moi je trouve.
Ouais, bah essayons de trouver une vidéo où il y a effectivement de quoi, enfin où ils expliquent les 50 premiers niveaux, comme ça ceux qui veulent peuvent aller direct au niveau 50 et avoir les trucs cool, ça serait pas mal. Si on trouve ça, on vous le mettra dans les notes de l'émission. Si on trouve pas et que vous en connaissez, dites-le nous, on essaiera de mettre ça quelque part. Bon bah écoute, ça nous fait un bon petit résumé de tout ce qui se passe. Alors en fait, on n'a même pas vraiment expliqué en quoi consiste Endwalker, si ce n'est scénaristiquement. Il y a le personnage en plus, et il y a plein, enfin la classe en plus, le job en plus, il y a plein d'autres petits trucs, mais je crois qu'on a déjà fait suffisamment long sur Final Fantasy XIV. Si vous n'êtes pas convaincu à ce stade, je crois que vous ne le serez jamais. C'est bon, il y a un truc que tu veux ajouter avant qu'on conclue ou c'est bon, Kassim ?
Non, t'as dit l'essentiel. Hein, voilà, tous les trucs qu'ils vont rajouter, c'est des trucs qui étaient teasés depuis longtemps dans le jeu et que les fans sont très contents d'avoir, mais comme je t'ai dit, c'est la fin de l'histoire.
Ouais.
Le dernier truc, ce serait l'ajout d'un mode. Ils vont ajouter un mode un peu Animal Crossing, dont j'ai hâte d'avoir des nouvelles, en fait. Ils n'ont pas tout détaillé. En gros, on va pouvoir posséder une sorte d'île magique sur laquelle on va pouvoir avoir toutes nos montures et tout qui seront un peu en liberté et qu'on va pouvoir un peu faire son champ de blé, j'imagine, un peu, enfin voilà, Animal Crossing.
Mais comme dans les MMO de ce genre, il y a souvent des modes de jeu dans le jeu, en fait.
Donc, bien sûr.
Très bien. Merci, Kassim, pour le résumé. Dany, tu as commencé à installer Final Fantasy sur ta PlayStation 5 ?
Ah mais tout de suite, direct, hein. et j'ai pris toutes les extensions parce que la version gratuite du jeu, finalement, ça semble pas être assez.
Très bien, bravo Dany. Écoutez, on va parler rapidement du Summer Game Fest qui va commencer avec une conférence de 2 heures le 10 juin, donc dans 2 semaines à peine, Et si je ne me trompe pas, c'est la veille du lancement de l'E3. Et il va y avoir de nombreux studios qui vont participer à cet événement de lancement, au stream de lancement. On a notamment... alors, dans l'ordre, 2K, Activision, Amazon Games, Annapurna, Bandai Namco, Blizzard Entertainment, Capcom, Devolver, Dotemu, Electronic Arts, Epic, etc., etc., etc. Il y en a beaucoup. Et du coup, on pourrait se dire, ça va être un gros événement. Vous savez que le Summer Game Fest, c'est le truc organisé par Jeff Keighley. Et on pourrait se dire, ça va être un gros truc, il va y avoir des annonces. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir des grosses annonces au Summer Game Fest ou pas ? Moi, j'ai un scénario en tête, mais je voudrais savoir ce que vous imaginez. Dany, qui commence à rigoler déjà, dis-moi.
le truc, c'est que déjà, au vu des différents éditeurs qui sont en fait représentés là-bas, bon, déjà, il y a Blizzard. Est-ce qu'ils vont vraiment prendre cette opportunité-là pour annoncer un super gros truc alors que bah il y a déjà enfin tu vois ils ont déjà beaucoup de leurs propres moyens de communication type la BlizzCon etc pour annoncer vraiment des grosses exclus et donner envie aux gens de payer leur ticket pour voir tout en live avoir les goodies etc je suis pas sûr maintenant que ça arrive exactement en même temps que le 3 c'est bien mais je pense qu'il va y avoir une sorte de Les informations vont chevaucher. Je vois pas du tout un gros éditeur se priver de la plateforme qui est le 3 pour annoncer des gros lancements, des exclus, etc. Pour passer sur le Summer Game Fest, dont c'est encore tout frais, tout nouveau, tout récent. Ouais. Donc j'y crois moyen pour l'instant. Je sais pas s'il y aura des exclus incroyables. Maintenant, je demande qu'à être surpris.
Kassim, moi, je peux te prédire exactement ce qui va se passer.
Ouais, mais moi aussi,
je peux te prédire exactement.
Vas-y, dis-moi.
Alors, donc ce Summer Game Fest, ça va être un événement d'abord de 2 heures là avec Geoff Keighley où ils vont présenter la nouvelle saison de Fall Guys, de Among Us, présenter plein de double A qui se sont fait un peu refuser ou d'éditeurs tiers qui sont pas présents à l'E3 quoi en gros. Et ça va être plein de jeux un peu voilà mid tier qui sont pas forcément mauvais du tout, hein, mais c'est juste qui n'auront pas l'importance nécessaire pour être dans les grosses conférences de Sony. Microsoft et compagnie qui arriveront après. Et puis, le Summer Game Fest, ça va être une chaîne Twitch qui va globalement rediffuser les mêmes conférences que ce qu'on aura aussi à l'E3, c'est-à-dire le Ubisoft Forward. Le Ubisoft Forward, il va être sur la chaîne d'Ubisoft, il va être sur la chaîne de l'E3 et il va être sur la chaîne du Summer Game Fest et tu pourras choisir un peu ton école et choisir voilà, ta chaîne Twitch préférée pour suivre la même conférence sur les trois trucs. Et globalement, ça va être ça pour tous les gros éditeurs, le Xbox et compagnie. Je pense que pendant la conférence de Geoff, il y aura quand même une ou deux petites pépites peut-être importantes. Moi, je me demande si PlayStation ne va pas en profiter justement pour étaler. Parce que PlayStation est dans un cas un peu particulier. Ils seront en pleine sortie de Ratchet & Clank, qui est leur grosse sortie de l'été. Donc, je pense que PlayStation peut justement en profiter pour balancer à Geoff Keighley un trailer d'un jeu Sony type Horizon ou un truc comme ça, ou un teaser. Et de donner rendez-vous plus tard dans le mois de juin, voire début juillet, puisqu'ils n'ont toujours pas annoncé, eux, leur événement, et ils ne sont pas présents à l'E3, pour leur vrai State of Play qui arrivera après la sortie de Ratchet & Clank et de FF7, machin truc, version PS5. donc j'ai oublié le nom. Intergrade, voilà. Mais du coup, qui sont leurs deux grosses exclus, les deux grosses exclus PlayStation là de juin, et je pense qu'ils vont pas vouloir taper sur la campagne marketing.
Ouais, moi je suis assez aligné sur ce que tu dis. En fait, à mon avis, il va y avoir des détails peut-être sur des jeux qui ont déjà été annoncés.
Beaucoup de mises à jour de jeux service.
Possiblement, ouais, c'est vrai. Quand on voit des trucs comme Activision, ils vont parler de Warzone, quand on voit, enfin, ce genre de choses. Des détails sur des jeux qui ont déjà été annoncés et peut-être des annonces de jeux, parce qu'ils sont quoi, la veille de la conférence d'ouverture de l'E3, et donc il n'est pas impossible qu'on ait des annonces de jeux un peu plus importants, genre, je ne sais pas, le prochain Assassin's Creed ou ce genre de trucs, mais avec quelques secondes de trailer pour que Geoff Keighley puisse dire « Et voilà, on a l'annonce exclusive world premiere du prochain jeu de machin. » mais en disant rendez-vous demain à la conférence de l'E3 pour en savoir plus, ou rendez-vous à l'UbiForward pour en savoir plus. Et je pense qu'il y aura peut-être quelques trucs, genre une poignée de ce genre de choses, mais dans l'ensemble, oui, des jeux moins importants, et puis possiblement plus de détails. On a vu des images de Kena Bridge of Spirits, par exemple, qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, et qui pourrait en montrer un petit peu plus, parce que le jeu, il est connu, quoi. Donc, ce n'est pas une grosse cartouche. Mais oui, les grosses cartouches...
Yes. Un trailer de Deathloop, on espère.
Encore ! Ça va, ça commence à suffire. On a eu...
FF14, il y aura du FF14.
Bien sûr.
Mais en fait, je comptais le nombre de partenaires qu'ils ont. Ils en ont 33. 33 partenaires en 2 heures, ça veut dire qu'il va y avoir quoi, 3-4 minutes par partenaire, en gros. Donc, ça va vraiment être du contenu, à mon avis, très...
Bon, 3-4 minutes, bon, alors... tu peux montrer des choses, hein, quand même, en 3-4
minutes. Ça fait un trailer de longue durée, où si tu as 2-3 trucs à dire... tout de suite, ça va être très court, hein. Ça va être des mini pré-rolls de 30 secondes,
Non, mais par contre, ça, c'est les partenaires du Summer Game Fest, et c'est pas dit qu'ils soient tous dans la conférence d'ouverture du Summer Game Fest. Hein. Pour moi, c'est une chose différente.
C'est possible.
C'est vrai, c'est pas bête.
D'un autre côté, si t'es partenaire avec, t'as envie d'être dans la conférence d'ouverture, t'as envie d'avoir le maximum de visibilité et de te dire, voilà, bah, je suis partenaire, je veux mes 5 minutes pendant les 2 heures de conférence.
Oui et non. Moi, je pense que c'est Jeff Keighley qui est très pote avec tout le monde dans cette industrie. Et c'est genre, vous voulez pas être partenaire avec moi pour le Summer Game Fest? Ça veut dire, on vous retransmet votre vidéo sur la chaîne du Summer Game Fest et donc vous êtes partenaire. Tu vois, et donc ils disent, ok, Jeff, c'est bon, mets notre logo sur ton truc, d'accord. Et donc, à mon avis, c'est plus comme ça que ça se passe. Et je crains, peut-être pas, mais je crains que 2 heures, ça soit un peu long pour tout ce qu'ils ont à présenter et que du coup, on se retrouve avec... quelques petites pépites qui sont restées à la fin, genre un peu plus de vidéos sur Kena Bridge of Spirits vers la fin, ce genre de trucs, et qu'au début, il y ait beaucoup de petits trailers avec des discussions de 5 minutes avec les développeurs, genre Super Cool Games, vous avez présenté votre jeu, j'aime créer des cappuccinos de toutes les couleurs. Est-ce que vous pourriez nous parler des différentes couleurs de cappuccino qu'on peut créer dans votre jeu ? Et ce genre de truc pendant, tu vois, leurs 5 minutes, ça va être ça. Moi, je crains que les 2 heures, ce soit un petit peu long, quoi. Mais bon.
J'en ai peur aussi, surtout que maintenant, déjà, donc, il y a l'E3 le lendemain, et en plus, une fois que tu as, même si on nommait l'E3, il y a State of Play, il y a beaucoup de plateformes, en fait, online, maintenant, pour les différents éditeurs, pour annoncer leurs propres jeux, leurs propres exclus, les trucs les plus intéressants. Et finalement, pourquoi être noyé au milieu de la masse?
C'est sûr.
Le jour d'avant, un super gros event, hein, et en plus même l'E3, tu vois, je pense qu'il va y avoir une perte de vitesse à terme sur l'E3 si ça reste en dématérialisé.
Tu dis une perte de avant un super gros event et c'est l'E3, et c'est vrai, mais même l'E3, ils doivent être en train de se battre pour avoir des gens pendant leur conférence d'ouverture.
Bien sûr.
Parce qu'il y a, comme tu disais, l'événement Xbox, l'événement EA, l'événement Ubisoft, pour lequel ils se gardent leurs grosses cartouches, quoi. Même l'E3, ils vont sans doute présenter des trucs en disant « Regardez notre conférence demain pour avoir plus d'infos sur ce dernier jeu après ce trailer de 30 secondes. » Du coup, la conférence d'ouverture du Summer Game Fest, ça va être non pas les trailers de 30 secondes pour dire « Regardez le truc complet dans notre conf demain », ça va être les trailers de 10 secondes pour dire « Regardez le trailer de 30 secondes demain à l'E3 », qui vous dira de regarder la vraie présentation du jeu dans notre conférence demain ou après-demain. Donc, pardon Kassim, tu voulais ajouter un truc et puis on conclut.
Non, mais je dis que là, en fait, la vraie question au final, parce que en fait, ce genre de conférence, c'est pas la première fois que Jeff Keighley l'en fait, notamment il a fait la conférence d'ouverture de la Gamescom, la seule conférence de la Gamescom, comme vous voulez l'appeler, à l'été 2020. Et c'est exactement le même genre de conférence ou d'événement. Et du coup, la seule vraie question, c'est est-ce que le fait d'être placé début juin avant l'E3, ça change quelque chose sur les annonces par rapport à être placé fin août au moment de la Gamescom? Est-ce que ça va changer vraiment l'importance que les éditeurs vont mettre dans l'événement de Jeff Keighley? Moi, je ne suis pas forcément convaincu que ça va changer dramatiquement les choses, mais c'est une question qu'on peut se poser.
Oui, mais à mon avis, le seul truc que ça fait, et c'est pour ça que Jeff Keighley a décidé de le faire le 10 juin plutôt que le 14, c'est qu'on peut justement avoir ces mini-trailers de 10 secondes pour dire... Ah, regardez demain ce
qu'on a des exclus, c'est merveilleux.
C'est ça. Et tu vois immédiatement. Bon, je peux tout de suite. Enfin, j'en ai vu beaucoup des conférences avec Killy. Je peux imaginer sa tête après la fin du trailer de 10 secondes où il va dire eh, voilà, le world premiere sur tel jeu, vous avez vu comme ça va être cool. Enfin, tu vois, pour pouvoir dire qu'il puisse dire qu'il l'a eu sur, son, sur sa conférence à lui. Et évidemment, si c'était le 14 juin, bah, il ne pourrait plus parce que personne n'a d'intérêt à, annoncer, à garder un truc pour sa conférence le 14 juin. Alors que sous, sur ce format, le 10 en, pour, en, en 10 secondes pour commencer à donner de l'appétit aux spectateurs, ça peut le faire. Bon. Bref, voilà pour le Summer Game Fest. On va continuer à vous parler de différentes choses. Ah, juste un dernier truc quand même avant d'enchaîner. On sait déjà que Silksong ne sera pas à l'E3 et a priori, on sait que Elden Ring ne sera pas à l'E3 non plus. Donc, les jeux que tout le monde attend, je crois que c'est les deux gros jeux que tout le monde attend, enfin, qu'une certaine partie de la, du public attend, eh bien, préparez-vous. Ils font bien de le dire, hein, parce que sinon, chaque conférence, tout le monde attendrait ces deux jeux. Eh bien, ils n'y seront pas. Donc, voilà. Maintenant, vous savez. Et donc, j'aimerais vous parler une toute petite seconde de Patreon. Patreon ! Est-ce que vous savez ce que c'est que Patreon ? Patreon, c'est un truc absolument incroyable. J'ai dit Patreon 5 fois et j'en rajoute une 6e. Patreon, c'est le moyen de soutenir l'émission. Patreon.com/RDVjeux. Vous y allez, vous regardez ce que ça propose et vous constatez que pour une somme absolument modique, 1 euro, 2 euros, eh bien, vous pouvez devenir un soutien officiel et vénéré de l'émission. Et du coup, vous aurez non seulement le plaisir, la joie, le bonheur, la fierté de devenir un patriote, un soutien de l'émission qui soutient financièrement le contenu qu'il ou elle apprécie. Mais en plus de ça, vous aurez droit à des bonus, comme par exemple le fait d'avoir les épisodes sans les publicités et sans ce petit laïus au milieu. Vous aurez aussi des contenus bonus. Vous aurez une couleur spéciale sur le Discord. Vous pourrez aussi avoir accès aux au Discord privé, à la partie privée du Discord, si vous êtes au niveau correspondant, et plein d'autres petites choses. Mais au-delà des bonus, eh bien, le plus important, c'est quand même la fierté, le bonheur de soutenir un contenu que vous aimez. J'espère que ça vous intéressera. J'espère que vous appréciez l'émission suffisamment pour vous dire que ça pourrait vous intéresser. Et donc, je vous donne rendez-vous sur patreon.com/rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission. Je vous remercie par avance de considérer peut-être cette possibilité si vous appréciez l'émission et si vous passez de bons moments en notre compagnie.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Et comme le dit Kassim dans la chatroom sur Twitch, le podcast, c'est un peu la version gratuite, d'essai gratuite de Final Fantasy XIV. Sauf que là, ce n'est pas le début du contenu qui est dispo, c'est l'essentiel du contenu qui est dispo quand même.
Et si tu prends la version collector, c'est une statuette de notre Patrick.
Ah, la version collector secrète cachée, une statuette de notre Patrick en maillot de bain. Je peux vous dire que, en ce moment, vu les quantités de chocolat que j'ingère pour tenir les nuits compliquées, c'est pas forcément flatteur. Bon, alors, un petit instant pour peut-être parler des jeux auxquels on joue en ce moment. Moi, c'est toujours Destiny 2, donc je ne vais pas vous fatiguer avec ça. C'est le jeu dans lequel je peux sauter 10 secondes ou rester 2 heures pendant que la petite dort sur moi. Donc, c'est Destiny 2 et la saison du Splicer, qui est très cool. Mais est-ce qu'il y a des jeux intéressants, nouveaux, curieux, auxquels vous jouez en ce moment, qui pourraient valoir le coup d'être évoqués ? Ou pas du tout, c'est vraiment une période un peu morte pour tout le monde. Dany, est-ce qu'il y a des jeux qui animent tes journées et tes nuits ?
Oui, bien sûr, moi de toute façon. Bon, si on met de côté WoW, j'ai quand même... Alors je dois avouer que j'ai remis le pied dans Diablo 3. J'ai créé un personnel saisonnier en parangon hardcore que j'ai monté niveau plus que 550-600. Donc ouais, pas mal. Je l'ai mis de côté maintenant et je joue à d'autres jeux. Donc il y a deux jeux en fait qui m'ont... interpellé ces derniers temps. Le premier, c'est Resident Evil Village, comme plein de gens. Sympa, je l'ai quasiment terminé. Il est fun. C'est pas forcément le retour aux sources que j'aurais espéré avec une ambiance un peu oppressante et dure. C'est plus une sorte de FPS d'horreur. Mais il est amusant.
Pardon, de quel jeu tu parles ? J'ai raté.
Resident Evil Village.
D'accord, ok, ouais, d'accord, très bien. Donc,
voilà.
Un bon petit Resident Evil, quoi.
Pas mal, pas mal. Ouais, il est sympa. C'est un bon divertissement. C'est pas forcément le meilleur de la série, mais il est sympa. Okay. Et l'autre jeu, à mon avis, assez toi bien, auquel j'ai joué, que j'ai trouvé sympa, je l'ai pas terminé, mais j'ai joué quelques heures, c'était Astro Aqua Kitty, un shoot.
Pardon ?
Qui est plutôt sympa.
Attends.
Astro Aqua Kitty.
Aqua Kitty. Non, effectivement, là, tu me surprends un petit peu. Astro Aqua Kitty, très bien, je vais essayer de trouver un trailer.
Ouais,
donc c'est quoi, de quoi s'agit-il ?
Donc c'est un shoot, pas un FPS, mais un shoot'em up, comme à l'époque.
D'accord.
D'exploration, où tu es dans certaines, t'es sur des maps, tu peux te balader dans toutes les directions, et en gros, on s'en fout de l'histoire, hein. C'est flinguer le plus d'ennemis possible, avec des bons power-up, des options un peu type RPG, avec des armes que tu peux upgrader ou pas, des personnages qui augmentent tes capacités ou pas, etc. Et il est assez sympa. Il est assez sympa. J'avais déjà joué au vieux Aqua Kitty à l'époque, c'était cool. Et celui-là, c'était une bonne mise à jour. J'ai essayé sinon aussi le nouveau R-Type. Ouais.
Bah justement, on parlait de R-Type la semaine dernière avec Christophe. Mm-hmm. Là, ça ressemble un petit peu à R-Type, mais genre avec plus d'exploration, tu peux vraiment aller dans tous les sens. Quoi. C'est pas un scrolling horizontal, tu peux aller dans tous les sens. Mais par contre, ça ressemble furieusement à R-Type au niveau du design, au niveau des armes, ce genre de choses, quoi.
Ouais, ouais. Sauf que là, tu joues des petits chatons mignons, c'est un peu plus cute que R-Type où t'es censé te battre contre les aliens de l'espace. Mais ouais, il est plus facile, je pense, que R-Type et plus accessible.
D'accord.
Ne serait-ce que parce que tu peux gagner de l'XP, donc pire, tu plus de vaisseaux, tu deviens un peu plus fort, tu farmes un peu, et voilà, et tout devient plus facile.
Et voilà. Il est sur Switch et PC au moins, PS. Sur Steam.
Et PlayStation aussi.
Et PlayStation, ok, très bien. Astro Aqua Kitty. Ça s'appelait Aqua Kitty le premier, et ça, c'est la version Astro. Ah, mais c'est trop cool, on peut jouer des lapins, des canards, très
mais oui, c'est très mignon, ils sont redoutables, il y a une ambiance dark et gothique, bon, je déconne.
Super, d'accord, merci beaucoup. Kassim, à quoi as-tu joué ces derniers temps ?
Alors, je me suis remis un peu à Final Fantasy XIV, forcément à cause du Fan Festival, mais je ne vais pas trop en reparler. Sinon, je joue... pas grand chose de neuf, je joue à Final Fantasy X-2 HD qui vient de... Parce que j'avais fait le 10 déjà, mais je n'avais jamais fait sa suite. Et il vient d'arriver dans le Game Pass, donc j'en ai profité pour le faire. Surtout que les Final Fantasy ont tendance à pas rester très longtemps, j'ai l'impression, dans l'abonnement. Donc du coup, je me suis dit que j'allais le faire dès qu'il arrive pour pas perdre l'opportunité. Mmh. Et puis, qui a été remasterisé, enfin, jeu de l'époque PlayStation 2 qui a été remasterisé. La remasterisation est très propre. Ça, c'est parfaitement jouable. On sent quand même un peu le gameplay,
enfin,
le design un peu de l'époque.
J'ai cherché un trailer sur YouTube. Il date de 2006, le trailer, et c'est en 4 tiers. Donc, effectivement...
Oui, non, mais là, c'est la version... je pense que c'est la version SD que tu as trouvée. mais la HD est en 16/9, tout quand même. Il y a un peu de respect pour le...
Voilà un trailer du remaster. Effectivement, il est en 16/9 et il est beaucoup plus propre.
C'est incroyable.
Est-ce que c'est celui, en fait, à l'époque, j'y avais joué, mais ça m'avait marqué, est-ce que c'est celui qui commence par une sorte de concert de Pop Idol ou les héros
oui,
du...
Oui, bien sûr.
D'accord, ok.
Ah, c'est génial, j'adore. Non, mais vraiment. Enfin, bref. C'est intéressant parce que c'est vraiment la suite du précédent. Il y a quand même un changement d'univers, justement, le côté Pop Idol est là pour marquer justement la différence avec le précédent. Bref, je vais pas le justifier. C'est très sympa. je vous conseille de l'essayer, mais c'est très sympa quand même. Et autre vieux jeu auquel je joue en ce moment, c'est Mass Effect édition légendaire, Legendary Edition, donc le remaster de la trilogie. Puisque je suis un grand fan de Mass Effect et j'ai fait l'erreur, j'ai pas acheté.
T'as fait l'erreur d'acheter le Legendary Edition, c'est ça?
Non, mais disons que non. Enfin, c'est pas.
Andromeda.
Donc c'est Andromeda non. J'ai acheté la trilogie. J'ai acheté la trilogie effectivement édition légendaire. C'est pas totalement une erreur, mais tu sais, c'est un peu le sentiment de culpabilité de te dire bon, je sais pas si ça méritait vraiment son argent, mais je suis content de l'avoir quoi.
Et est-ce que ça vaut le coup alors de les refaire? Parce que moi j'avais bien aimé à l'époque, mais bon, ça fait des lustres et je me tâtais à refaire le premier en fait sur la Legendary Edition justement.
Qui est le seul qui a été vraiment retravaillé, donc ouais. Oui, c'est celui qui vaut le coup quoi.
Disons que voilà, j'ai pas racheté la trilogie Mario, donc tu vois, je me suis dit tiens, celui-là je vais le faire. Oui, l'édition légendaire, donc le 1 était vraiment bien remasterisé pour le coup, effectivement. Il n'y a pas photo, je trouve les gens qui disent que ça ressemble au précédent, enfin à la version d'origine un peu de mauvaise foi, même sur PC, moi j'ai joué sur PC, j'y joue toujours sur PC, même sur PC c'est différent, et même avec les mods, le 1 n'était pas aussi amélioré que ce que là l'édition légendaire propose. Cela étant dit, ils n'ont pas non plus révolutionné le jeu, et alors moi je suis un très grand fan, je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai des centaines d'heures sur le jeu, donc oui forcément ça ne pose pas de problème de le refaire. Est-ce que quelqu'un qui a déjà fait la trilogie à l'époque peut le refaire et en profiter? Je sais pas, ça vaut les 60€ pour le coup. Ça c'est plutôt à attendre, à mon avis, les promos. Et est-ce que c'est une bonne version pour découvrir le jeu maintenant? Bah, ça m'a frappé à quel point... c'était devenu... J'en parle souvent de Mass Effect, ça fait partie de mes jeux préférés, effectivement, de la génération PlayStation 3. Et c'est un peu devenu un running gag de parler de Mass Effect et de trouver vraiment la trilogie très bien, et je me suis demandé si elle était sur-hypée ou pas au moment où j'ai recommencé. Et non, quand même, il y a des trucs que même aujourd'hui, je ne retrouve pas dans des jeux vidéo. Il y a vraiment une approche très cinématographique de l'univers de SF. Déjà, des jeux de SF, de Space Opera, il n'y en a pas tant que ça qui ne soit pas dans l'univers de Star Wars, de Star Trek, honnêtement, en triple A, un peu exploration. Et donc, c'est vraiment un super univers. Le lore est incroyable. Moi, le Mass Effect 1, si vous vous y mettez, je vous conseille au début de passer dans le codex. Il est doublé, donc c'est le sort d'encyclopédie du jeu qui est intégré au jeu. Il est doublé par une très belle voix, même en VF. Et il décrit l'univers et c'est vachement passionnant, justement. Enfin, ça, tu te plonges, tu sens toute la construction de l'univers derrière. Et voilà, il y a des scènes vraiment mythiques de quand tu arrives la première fois à Citadel 2 qui sont vraiment incroyables à revivre. Le sound design, la musique du jeu est vraiment une très belle composition aussi. Il y a vraiment tout ça qu'on retrouve et qui ont pas si mal vieilli que ça, je trouve, justement. Toute l'ambiance cinématographique a vraiment très très bien vieilli. Le gameplay, en revanche, effectivement, déjà le gameplay du 1 avait déjà vieilli, même s'ils l'ont restauré, c'est pas incroyable. Et d'une manière générale, c'est du cover shooter avec de la magie qui s'appelle autrement, mais c'est de la magie qui est cool, mais c'est du cover. Enfin,
C'est du cover shooter reste, que tu peux mettre en pause si tu veux, mais oui, c'est du cover shooter.
Enfin, de toute façon, moi, dans mes souvenirs, enfin, ce qui me plaisait le plus dans le jeu, c'était plutôt les phases RP exploration.
Bien sûr,
et les phases de shooter, c'était un peu un moyen de faire avancer l'histoire, mais tu avais hâte vraiment d'arriver à la suite de l'histoire,
sûr,
et tes relations avec les personnages, et tes choix qui pouvaient influencer ce que j'aimais le plus. Mais comme beaucoup de gens, je pense.
Et au-delà de la trame principale du jeu, qui est bien ou mal, ou le lore du jeu, c'est effectivement le point fort qui reste de la trilogie Mass Effect, c'est les personnages. Ton équipage, le fait de garder du premier au 3 globalement le même écosystème de personnages, tu t'attaches vraiment beaucoup à eux jusqu'à leur dire au revoir justement à la conclusion de la trilogie. Et je pense que c'est ce qui reste le plus, c'est ce qu'ils ont voulu mettre d'ailleurs en avant. Enfin, ils sont bien conscients les développeurs, c'est ce qu'ils ont mis en avant sur la cover du jeu, et c'est ce qui est mis en avant dans la plupart des trailers, c'est les personnages, l'équipage, et tu te lis d'amitié en fait avec ces personnages-là, et c'est ce qui est resté en fait de la trilogie, je trouve, le plus.
Je me souviens. Je me souviens du 1 dans lequel j'avais pris beaucoup, beaucoup de plaisir et le sentiment d'exploration en space opéra qui est assez rare. On a beaucoup de monde ouvert en fantasy, mais en space opéra, en science-fiction, c'est beaucoup plus rare. Et là, il y avait un vrai sentiment de liberté. Je trouve que le 2, moi, je ne l'avais pas fini parce que j'avais... Si, j'avais peut-être fini le 2, je ne me souviens plus. Mais j'avais été frustré par le content gating où il fallait avancer dans l'histoire pour explorer d'autres planètes. Le 1 était vraiment hyper ouvert et vraiment plaisant à ce niveau. Donc peut-être un bon moyen de le redécouvrir, même si c'est que pour le 1. Peut-être que vous aurez envie de faire le 2 ou le 3, mais ça peut valoir le coup de découvrir cette série si vous avez du temps et un petit peu d'argent. Écoutez, c'est bien, c'était l'un des jeux qu'on voulait évoquer, ce Mass Effect Legendary Edition. Pour l'évoquer rapidement, il y a eu des previews sur Deathloop, et Gamekult a notamment pu aller y jeter un coup d'œil. Pour vous résumer un petit peu ce qu'il en ressort, on a une confirmation de ce qu'on imaginait pour le gameplay de Deathloop. Pour rappel, il a été repoussé, la sortie a été repoussée à septembre, si je ne m'abuse. Mais donc, on a une confirmation de ce qu'on imaginait pour le gameplay, c'est-à-dire une sorte de mélange entre Dishonored et un roguelike, et un gameplay, oui, on va dire vraiment Dishonored avec des flingues, voilà, quelque chose comme ça. Et par contre, pour ce qui est de la boucle de gameplay sur le long terme, ça reste complètement dans le flou. Et du coup, je reste, moi, un petit peu circonspect pour la nature du jeu. Le fait qu'il n'explique toujours pas et que même en mettant le jeu entre les mains des testeurs pendant, on va dire, une petite heure, je crois que c'était une demi-heure, une heure, même, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas montrer la boucle de gameplay au-delà de la boucle de gameplay moment to moment, donc immédiate, ça me laisse penser qu'ils ne sont pas sûrs eux-mêmes de ce qu'ils veulent en faire. Donc, en plus, le jeu a été repoussé plusieurs fois, mais bon, bref. C'est un petit peu ce qu'on peut retirer de la description qu'a fait Nodus sur Gamekult. Vous pouvez aller voir sa preview sur Gamekult, bien sûr. Lui, ce qu'il dit, c'est vraiment un petit peu un Dishonored roguelike avec du Hitman dans l'aspect immersive sim où on peut approcher, comme souvent dans les jeux d'arcane, les niveaux de différentes manières, de manière assez ouverte. Donc, intrigué toujours par Deathloop, mais je reste circonspect pour le jeu sur le long terme. Quoi d'autre ? Il y a une série de petites news dont la plus importante, à mon sens, est le fait que AT&T vend Warner Media. Alors, si vous n'êtes pas sûr de pourquoi c'est important, c'est parce que, enfin, pour le jeu vidéo, c'est parce que Warner Media, qui appartient donc au géant de la télécommunication AT&T aux États-Unis, Warner Media donc inclut WB Games, qui est Warner Bros. Games, qui est derrière une série de jeux particulièrement populaires, et notamment la série des Batman Arkham, mais il y a aussi les Mortal Kombat, les Injustice, plein de jeux Lego, etc., etc. Et ils n'ont pas mentionné quoi que ce soit sur ce qu'allait devenir WB Games. Il y a une partie des studios, parce que c'est plusieurs studios différents, on a Rocksteady, NetherRealm, Monolith, enfin, plein de jeux, Et une partie des studios va rester chez AT&T et une partie va partir avec le groupe Warner Media. Mais ils n'ont pas dit quoi, qui ou comment. Donc, de là qu'ils étaient en train visiblement de penser à vendre les studios de jeux vidéo il y a quelques mois, et il semblait que Microsoft ait été sur les rangs parce qu'ils ont de l'argent à gaspiller, enfin à dépenser, et bien là, on est dans une situation où les studios vont être divisés entre différentes entités. Qu'est-ce qui va rester des droits, des licences, qui sont des licences Warner Brothers ? On ne sait pas. C'est un petit peu le flou et c'est un petit peu inquiétant parce qu'il y a plusieurs jeux qu'on attend avec impatience et dont on n'est plus certain de l'avenir. Du coup, on pense qu'ils vont quand même... en faire quelque chose. Je veux dire, les jeux ne vont pas disparaître, en tout cas les gros, mais c'est quand même un petit peu inquiétant. Je ne sais pas si ça vous préoccupe l'avenir de Warner, de WB Games, mais tous les jeux Arkham et les jeux Terre du Milieu, moi, ils m'ont bien plu, donc ça me...
Et Mortal Kombat aussi.
Mortal Kombat. Je pense que Mortal Kombat, ils ne sont pas liés aux licences Warner Bros. Et donc, ils sont moins... Et puis, c'est des gros jeux, tu vois, NetherRealm, ils vont peut-être se retrouver ailleurs, mais ils ne vont pas avoir de problème au point où ils ne vont plus pouvoir faire leurs jeux. Donc, mais oui, c'est quand même, ouais. C'est quand même préoccupant. Ouais.
Ah bah, ils ont des grosses licences et ouais, je trouve ça. C'est pas non plus les jeux si demain on me disait ouais, ça s'arrête ou tout va prendre du retard de 1, 2, 3, 4 ans, bah, le temps qu'ils discutent des droits et machin, etc. Ça changera pas ma vie, mais par contre, ouais, je trouverais ça dommage parce que franchement, ils ont un catalogue de qualité et des belles licences à développer.
Et NetherRealm, c'est Mortal Kombat effectivement, mais aussi Injustice qui là pour le coup est dans le giron de Warner Brothers évidemment. Mais il y avait eu des personnages de
Et tous les caméos de voilà, c'est ça aussi. Donc
ouais. Les caméos de Disney.
Non mais clairement, clairement ils sont liés à leur licence dans tous leurs studios. Ils sont liés à leur licence. C'était le principe de l'éditeur quoi. Donc ça va être compliqué. Si jamais ils revendent sans les licences, ça va être compliqué de voir ce que les studios vont pouvoir faire exactement. Après, j'ai pas trop de crainte sur les jeux. Même si demain, Avalanche Software, par exemple, se faisait racheter par, je sais pas moi, Sony, je pense que Hogwarts Legacy sortirait quand même en l'état. C'est-à-dire que le jeu est déjà en production, donc je pense que les contrats sont déjà scellés. Tu vois, un peu à la même manière que Deathloop, dont on parlait à l'instant, va sortir sur PlayStation, malgré le fait que le développeur appartienne maintenant à Microsoft. C'est des jeux dont le développement et les contrats sont déjà en cours, donc je pense que. Quoi qu'il arrive, ça ira jusqu'au bout. La question, c'est plutôt les jeux suivants, où là, évidemment, sans les droits, a priori, il n'y aura plus. Les jeux sortiraient sur de nouvelles IP, sur de nouvelles licences. Quoi.
Ouais. C'est évidemment.
Moi, je vois ça comme ça, en tout cas.
Moi, je pense quand même que les gens dans ces studios, ils ne sont pas à l'aise sur leur chaise, tu vois.
Oui, mais c'est ça, oui. Clairement.
C'est un peu. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je suis sûr, Dani, que tu attendais qu'une chose pour jouer à Warzone, c'était de pouvoir jouer Rambo. Eh bien,
mais évidemment,
figure-toi, ton rêve se réalise puisque la nouvelle update de Call of Duty Warzone inclut... alors attendez, je dis pas de bêtises, hein, c'est bien... Ah non, c'est Call of Duty Black Ops Cold War et Warzone et Call of Duty Mobile. Il y a un pack qui s'appelle 80s Action Heroes qui va permettre aux joueurs de jouer Rambo et John McClane. On voit Rambo dans les trailers, on voit pas John McClane. Donc je me demande s'il n'y a pas des histoires de droits sur le visage de Bruce Willis et que du coup, ils n'ont pas réussi à négocier les droits. Et donc, ça ne sera pas la tête de Bruce Willis et donc il ne nous le montre pas vraiment. Mais on a bien la tête de Sylvester Stallone. Donc, si vous voulez jouer Rambo dans Call of Duty, vous pouvez le faire désormais.
Ça, c'est une bonne raison pour reprendre.
Ouais,
on a quand même le personnage. On a quand même le personnage principal de Die Hard dans le trailer, c'est-à-dire la tour Nakatomi, quoi.
C'est le personnage le plus important, effectivement. Moi, je pense que faire un petit passage entre Final Fantasy le matin et Call of Duty avec Rambo le soir, c'est complètement cohérent. Je pense que tu vas bien t'amuser, Kassim. Plein d'autres petites news. Il y a un trailer pour The Dark Pictures House of Ashes. Vous savez que The Dark Pictures, c'est l'anthologie du studio. C'est Supermassive Games, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, ouais, donc je vais me taire.
Ceux qui font Until Dawn.
C'est, voilà. Et ils avaient fait, vous vous souvenez, Man of Medan et Little Hope. Et c'est en gros des jeux assez courts, narratifs et d'horreur. Et bon, comme d'habitude, le trailer, ça a l'air assez effrayant. Ils maîtrisent bien leur truc. Et donc, c'est pas forcément pour moi parce que je suis très team pétoche. Mais voilà, si vous êtes intéressé, Dany, si tu veux frissonner de peur le soir dans ton lit, tu peux jouer à The Dark Pictures House of Ashes.
Il a l'air sympa et j'aime bien en général ce que fait Supermassive, donc je lui laisserai une chance.
Gros fan de Until Dawn.
J'ai adoré, c'est fantastique. J'ai hâte qu'il y ait une suite.
C'est pas que des scare jump, des jump scares, ces jeux-là.
Non, moi, la raison. Il y en a un, alors j'aime pas du tout les jumpscares, hein. ça apporte rien en termes de contenu ou d'ambiance ou d'intérêt, je trouve ça assez nul. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé dans Until Dawn, en fait, c'est l'évolution de tes choix sur les embranchements dans l'histoire. Et donc, si tu fais des bons ou des mauvais, enfin, il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais choix, mais selon les choix que tu fais, ce qui va se passer va vraiment être différent d'une partie sur l'autre.
D'accord.
Et oui, c'est du Quantic Dream like en termes de gameplay. Mmh. Mais moi, c'est l'ambiance slasher movie dans Until Dawn. Enfin, tous les clichés, ils ont réuni tous les clichés.
Ouais,
le groupe d'ados se réunit un an après un accident terrible dans un chalet coupé du monde
avec sur lequel pèse un lourd secret. Avec machine, avec l'autre qui est jaloux de cette personne.
Voilà, qui est pop-up girl.
C'est ça. Et ça va très très bien ensuite dans l'ambiance slasher movie. C'est fantastique.
Bah là, vous parlez d'Until Dawn, mais The Dark Pictures, oui. C'est encore plus dark, justement. Et House of Ashes, ça a l'air. Enfin, il y a un passage genre, je sais pas, un petit peu Indiana Jones, Deuxième Guerre mondiale, on explore des ruines et il y a un maléfique créature ancienne qui a été réveillée et qui. Je sais pas, c'est ce genre de truc. Ça a l'air.
Des nazis zombies.
Un petit peu, ouais, un petit peu, ouais. Bref, voilà pour The Dark Pictures. On a aussi l'annonce, c'est quel studio qui fait ça ? Metal Slug Code J, qui est, c'est Timmy Studios, voilà, qui fait un Metal Slug sur mobile. Bon, ça parlera aux fans de Metal Slug, qui sont peut-être pas très nombreux dans l'assistance aujourd'hui, mais il y a un Metal Slug qui arrive sur mobile, donc vous pourrez y prendre du plaisir dans quelques mois, on va dire ça comme ça, je ne me souviens plus exactement. Une annonce plutôt cool, le jeu Donjons et Dragons Dark Alliance sera inclus au Game Pass à sa sortie. C'est le 22 juin qu'il arrive et c'est un jeu un petit peu, comment dire, c'est Donjons et Dragons Metal où on joue des méchants, donc forcément c'est Metal. Et c'est un petit peu, comment dire, un jeu en coop à 4. Donc je ne sais pas si on peut dire que ça va être du Left 4 Dead Donjons et Dragons en vue troisième personne, mais je suis intrigué. C'est pas un triple A, hein, c'est un truc à 40€ qui a l'air un petit peu de niche quand même, mais je suis curieux de voir ce que ça donne et on pourra le tester entre guillemets gratuitement. C'est un jeu inclus dans le Game Pass dès la sortie.
C'est un peu la tendance. C'est un peu la tendance récemment de Microsoft qui aime bien essayer de choper des jeux qui dès le jour de leur sortie dans le Game Pass et surtout des éditeurs qui tu sens sont pas trop trop confiants du succès potentiel de leurs nouveaux jeux, surtout quand c'est des jeux en ligne et qui je pense ont bien vu par exemple, enfin Outriders par exemple ça a cartonné pour le coup, ça a bien réussi pour Square Enix je pense. De s'intégrer au Game Pass et
oui, ils ont même dit récemment que ça serait l'une de leurs nouvelles licences principales Darkriders, donc oui, ça a dû bien marcher.
Donc là je pense que clairement l'objectif est d'essayer de retenter un peu ça. Moi ça me va tout à fait s'ils continuent de piocher dans les jeux en coop dont je suis super friand et que j'avais pas forcément l'intention d'acheter, donc ça me va.
Non mais c'est exactement ça.
Tester.
T'as tout à fait raison, c'est le genre de jeu qui, si, comme il y a une composante en ligne, que ça soit coopérative ou compétitive, une composante importante, bah, il faut que les gens l'achètent. Et quand t'es pas sûr du truc, quand c'est pas une IP déjà connue, quand tu sens que les wishlisting sur Steam ou que les précommandes sont pas énormes, bah, peut-être que ça vaut le coup de se lancer avec le Game Pass pour donner une certaine visibilité au truc. Et c'est une affaire... Enfin, c'est une rentrée financière pour le studio. Donc oui, c'est possiblement dans cette optique que c'est fait, ouais. Et ça fait nos affaires à nous aussi. Et puis, je voulais aussi évoquer un autre jeu dont je n'avais pas entendu parler auparavant, qui s'appelle Lies of P. Est-ce que vous savez ce que c'est, Lies of P?
Oui.
Écoute, non,
je ne vais pas le dire.
Mais moi non. Enfin, avant de lire les notes de l'émission, j'en avais jamais entendu parler, donc j'ai cliqué dessus, j'ai lu un des articles dessus. C'est intéressant.
Tu sais qu'on a une communauté sur le Discord qui est très très proche du jeu, des jeux dont tu vas parler, qui a bien sûr repéré le truc.
Alors, Life of Pi, c'est pas compliqué hein, quand on parle du Discord. Vous savez que c'est soit même pas vraiment Hollow Knight, non, c'est vraiment juste les Dark Souls. Eh bien là, ça ressemble quand même beaucoup à Bloodborne, mais c'est à la base, Pi, c'est Pinocchio. Et donc, c'est une sorte d'interprétation extrêmement sombre, horrifique de Pinocchio avec un gameplay qui, semble-t-il, ressemble un petit peu à du Dark Souls. Et donc, on a un Geppetto qui se balade dans cette ville. C'est un peu un truc victorien. Vraiment, c'est très inspiré de Bloodborne, on va dire. Un Geppetto un peu classe qui se balade dans cette ville et qui est entre des monstres et des sortes d'automates mécaniques et des bestioles un petit peu étranges. Et on a à côté de ça, donc Lies of P, vous avez compris, c'est les mensonges de P pour Pinocchio, hein, Pinocchio qui ment et son nez s'allonge. Je me demande si le nez qui s'allonge va jouer un rôle important dans la boucle de gameplay de Lies of P. On ne sait pas encore, on aura des informations bientôt, je suis sûr, à l'E3 sur le jeu. Là, on n'a pas vraiment de gameplay. Mais l'ambiance est assez... Alors, ce n'est pas pour moi parce que, comme je le disais, ce n'est pas mon genre de jeu. Mais j'ai l'impression qu'ils réussissent à capturer quelque chose de leur inspiration vraiment de manière authentique. C'est un pari qui semble fonctionner, quoi. Je trouve. Bon, maintenant.
Peut-être que ce sera la barre de vie. Le nez.
Ah, peut-être. Et donc, quand ta barre, il faut mentir pour allonger ta barre de vie. Et bon, non, ça marche pas. mais c'est intriguant, je trouve, comme jeu. Donc, vous pouvez aller voir ça. Ça s'appelle Lies of P. Pi, pas comme P-I, hein, mais simplement P comme l'initiale de Pinocchio. Quoi d'autre ? No Man's Sky est disponible en active avec le DLSS qui augmente sa fréquence d'affichage. Donc ça, c'est quand même une... c'est intéressant de voir que... comment il s'appelle ? Le studio de No Man's Sky. Ah,
j'ai oublié son nom.
Peu importe. Hello Games, merci. Il continue à développer le jeu. Au niveau des mises à jour et des fréquences d'affichage, Last of Us 2 a une mise à jour gratuite sur PS5 qui passe le jeu en 60 FPS constant également. Donc, bonne nouvelle là aussi. Un autre jeu que tout le monde attend avec sa mise à jour PS5, c'est GTA V et GTA Online qui devraient arriver sur PS5 et Xbox Series X et S en novembre. Donc, enfin, ce jeu, on va avoir d'autres raisons de l'acheter encore. Et on a...
Troisième fois,
oui. Oui, exactement.
Il sera peut-être chez Geoff Keighley, d'ailleurs. Hein. C'est le genre de trailer, tu vois, typiquement...
Complètement. Je suis tout à fait d'accord. En plus, il y a les 20 ans de Grand Theft Auto 3 qui, semble-t-il, vont donner lieu à des bonus dans Grand Theft Auto. Donc,
mais on ne doit pas être loin, en plus, des 10 ans de GTA V. Hein, donc,
Ouais, on est...
Ça arrivera bientôt.
C'est 2013, GTA V.
Oui, je crois que c'est 2012-2013. Hein,
Je crois, ouais. Quelque chose comme ça. Attends, on va vérifier.
Incroyable.
On va googler très vite. 2013, voilà, très bien. Ouais, donc ouais, c'est vrai qu'on est à 10 ans. Oh, mais mon Dieu, 10 ans de GTA V, c'est fou, ça. Et puis, Hades...
Ce qui est fou, c'est que...
Oui.
Pardon, juste, ce qui est fou, c'est que la meilleure année de GTA V, c'était l'année 2020.
Oui, on en parlait.
Avec chaque année, de toute façon, c'est un jeu qui est dans le top des tops. J'en reviens toujours pas, jeu. Ouais,
mais personne n'en revient. On est tous...
j'en perds mon latin, mais...
Tout à fait. Quoi d'autre ? Quelques petites news très rapides. Donc, Tencent investit dans Remedy Entertainment. Si vous pensiez que Tencent avait fini de faire des investissements dans des studios de toute origines, et non, il continue. D'ailleurs, merde, comment il s'appelle ce studio ?
Daniel
ce... Pardon ?
Non, pardon, je pensais que tu allais mentionner la statistique de Daniel Ahmad.
Non, j'ai pas. Il dit toujours des choses intéressantes, Daniel Ahmad, de la
question. Que Tencent, ils ont investi dans une entreprise ou racheté une entreprise de jeux vidéo tous les 2 jours et demi depuis le début de l'année, en moyenne.
C'est incroyable. Non, moi, je voulais parler de... Merde, comment il s'appelle ce groupe ? C'est pas Observer, c'est...
Embracer.
Embracer Group, voilà, qui continue à racheter des trucs, eux aussi. Oculus, il y a une nouvelle mise à jour. On parle de VR maintenant à presque tous les épisodes. Une mise à jour qui permet, avec le Quest, de capturer du gameplay en jeu... Mais ça, c'était possible depuis longtemps. Mais aussi, avec un iPhone, de capturer le joueur pendant qu'il est en train d'y jouer et de superposer les deux de manière à montrer vraiment ce que donne le jeu en jeu et avec le joueur qui gesticule en même temps. C'est une petite mise à jour, mais je trouve ça intéressant pour mettre en avant la manière dont les jeux en réalité virtuelle fonctionnent. Je trouve que c'est pas mal. Et puis, je voulais mentionner aussi The Pegasus Dream Tour. Est-ce que vous savez ce que c'est que The Pegasus Dream Tour ? Moi, je pense que non, mais je vous laisse votre chance quand même.
Vous ne savez pas. Non.
The Pegasus Dream Tour, c'est un jeu, le jeu officiel des, non pas des Jeux Olympiques de Tokyo, mais des Jeux Paralympiques. Et bon, je vous avoue que je ne suis pas convaincu qu'on en reparlera beaucoup de Pegasus Dream Tour, mais c'est une idée intéressante tout de même, donc de faire un jeu officiel des Paralympiques. Et donc, je voulais le mentionner pour lui donner un tout petit peu de visibilité ici.
Ce qui m'intéresse là-dedans, en fait, dans cette nouvelle, c'est que je ne crois pas avoir entendu parler d'un jeu sur les Jeux Olympiques. Et donc, c'est marrant parce que ça... Enfin, je me trompe peut-être, mais ça risque d'être le seul jeu lié aux Jeux Olympiques de cette année, en termes de jeux sportifs.
C'est possible, ouais. Donc, et ceci dit, le trailer fait 15 secondes, on voit quasiment pas d'image du jeu, et le jeu, ça a l'air, les quelques images qu'on voit, ça a l'air d'être un petit peu...
C'est des Mi.
Exactement, ouais, ça a l'air d'être un petit peu un jeu niveau Wii, on va dire. Donc, et généralement, les jeux des Jeux Olympiques, c'est pas les trucs les plus mémorables de l'histoire de la vidéo.
J'en avais parlé sur le Discord pour la question du jeu officiel des Jeux Olympiques. Il est déjà sorti, en fait. J'avais posé la question et en fait, je me demandais si le prochain Nintendo Direct, on n'allait pas avoir un Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Et en fait, il est déjà sorti, puisque les Jeux Olympiques, à la base, étaient censés être en 2020. Il est déjà sorti fin 2019, en fait.
Voilà la réponse.
Mais c'est Mario. Il semble bien qu'il y en avait à chaque année. Et là, je me disais, c'est bizarre, il n'y a rien. Mais oui, ils l'ont sorti beaucoup, beaucoup trop tôt, en fait.
C'est Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, effectivement. Je me souviens qu'il était sorti, Mais bon, là, il y a la licence Mario et Sonic aux Jeux Olympiques qui donne un petit peu plus de qualité intrinsèque au truc que si c'est juste le jeu des Jeux Olympiques. Mais bon, qui sait, ça se trouve, le jeu sera cool, de Pegasus Dream Tour. Et enfin, dernière chose, on a un trailer pour Resident Evil Infinite Darkness qui arrive le 8 juillet. C'est la série en images de synthèse de Resident Evil qui arrive sur Netflix. Et je ne sais pas trop quoi penser, en fait. C'est à mi-chemin entre le cringe et le pourquoi pas. C'est à mi-chemin entre... ça pourrait être intéressant et c'est quand même du Resident Evil dont, faut-il le rappeler, le scénario n'est pas forcément le point fort. Donc, je suis perplexe, on va dire. Mais d'une manière générale, Netflix a quand même fait des miracles avec les adaptations de jeux vidéo. Là, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment dans cette catégorie. Mais qui sait, peut-être.
Il faut lui laisser une chance, on verra. Moi, Castlevania m'a vraiment agréablement surpris. J'ai même vu Dota sur Netflix. J'ai été aussi très agréablement surpris, ne connaissant pas du tout Dota ou l'univers de Dota, c'était tout à fait regardable. Pourquoi pas, on verra. J'ai des doutes aussi, hein, parce que tout ce qui s'est fait précédemment sur Resident Evil était au mieux sympa, rigolo, mais voilà, ça ne cassait pas trois pattes à un canard.
Alors moi, je vais défendre, enfin du coup, je vais un peu plus... moi, j'attends la série parce que c'est la suite, enfin c'est clairement dans la même lignée que les films en images de synthèse qui sont déjà sortis, qui étaient surtout sortis au Japon, je ne sais pas trop dans quelle mesure en Occident ils étaient vraiment sortis. Mais il y avait déjà eu des films en images de synthèse exactement avec le même style et le même type de scénario, à mon avis. C'est-à-dire que c'est clairement série B, voire série Z, un peu. Enfin, ça, c'est pour surtout pas le prendre au sérieux. Il y a des scènes mythiques où Léon et Chris attaquent des zombies et genre tirent au sol et tout. Enfin, ils font des super pirouettes de partout. C'est incroyable. Et c'est très drôle. Enfin, c'est plus drôle à regarder que à prendre au sérieux ou effrayant. Mais c'est très sympa. Enfin, moi, j'ai toujours bien aimé le lore des jeux Resident Evil et justement le scénario, en prenant en compte que c'est plutôt série B qu'autre chose, quoi. Mais c'est, en gros, si vous avez bien aimé les scènes cinématiques avec, comment s'appelle-t-il, Wesker dans Resident Evil 5 qui faisait des ralentis et du bullet time et tout ça, ou Léon qui fait des cabrioles dans Resident Evil 4, c'est exactement ce genre de choses, mais en version film, quoi.
Ouais. J'ai l'impression que vous avez dit exactement la même chose tous les deux. Vous avez présenté exactement la même analyse, mais avec un point de vue un petit peu différent. Mais vous avez dit exactement la même chose, en fait. Les deux sont tout à fait justes. Moi, je me situe plutôt du côté de Dany, quand même. Mais bon.
moi, honnêtement, si c'est au niveau d'un bon nana rigolo, je serais content.
Ouais. On va dire ça comme ça. Je rajoute une pièce sur ta recommandation de Castlevania, qui est effectivement une très très bonne surprise. C'est très très différent de ce qu'on aurait pu imaginer, mais ça fonctionne très bien. Et Dota, c'est sympathique aussi. Donc,
j'étais très surpris par Dota, honnêtement. Jamais de ma vie, je me serais imaginé voir un animé sur Dota. Et honnêtement, j'ai hâte de voir la saison 2, c'était pas mal.
Ouais, tout à fait. Et donc, Resident Evil, c'est quoi déjà le nom ? Infinite Darkness, ça sera pour le 8 juillet. Et c'est sur cette information enthousiasmante qu'on conclut l'épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. Avant de se quitter, bien sûr, est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux où on peut vous retrouver ? Dany, que fais-tu sur Internet ?
Eh bien, je suis sur Twitter.
Je suis
sur Twitter. Et c'est @notdany, mon handle. J'ai tendance à dislike principalement tous les tweets de Patrick. Mais en tout cas, si vous postez, je vous suivrai, je vous lirai.
Très bien, merci Dany. Kassim, dans le fond, on a ton gunfight de Resident Evil entre Wesker et c'est Chris, qui est effectivement l'une des scènes les plus ridicules de l'histoire du jeu vidéo. Qu'est-ce que tu peux nous dire où on peut te suivre, Kassim ?
On peut me suivre sur Twitter @notkassim, sinon dans le serveur Exodus de Final. Et venez sur le Discord de notre Patrick, comme ça on pourra parler de Final Fantasy XIV. Et surtout, si vous jouez au jeu et que vous venez sur le Discord de notre Patrick, on sera assez pour créer un channel dédié et pouvoir faire concurrence au channel dédié de WoW. Donc venez en masse.
À partir de 500 personnes, Patrick ouvrira un channel dédié pour les fans de Final Fantasy XIV. Et il y jouera lui-même pendant 6 mois.
Qu'est-ce qui constitue Patrick qui joue ? Est-ce que si je me log une fois par semaine, c'est bon, c'est compté ?
On va dire 4 heures par jour, 4 heures par jour minimum.
Bon, le lien vers le Discord est sur notepatrick.com, comme le lien vers tout ce que je fais, c'est-à-dire tous les podcasts et tout le reste. Vous pouvez me retrouver sur notepatrick, sur Twitter, Facebook, Instagram, etc. Et vous pouvez bien sûr soutenir l'émission sur patreon.com/rdvjeux. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez... Ils sont encore en train de se battre, Chris et Wesker, c'est d'un ridicule.
Quel combat, mais... ouais.
Et ils ne se sont pas touchés une seule fois, ni avec le flingue, ni en se donnant des coups de poing ou des... Ah, voilà, Wesker a réussi à taper Chris, très bien. C'est Resident Evil Vendetta Best Gunfight Scene, si vous voulez trouver ça sur Twitter. YouTube. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Patreon.com/rdvjeux. et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.